Bonjour David, bonjour à tous. C'était redouté, c'est confirmé. Les aides à l'embauche d'un apprenti vont être revues à la baisse cette année. La municipalité cerisienne présentait ses vœux en fin de semaine dernière sur fond de contexte national et international pour le moins compliqué. Lui ne reconnaît plus son pays. L'auteur et essayiste américain Eddie L. Harris dédicacera son dernier essai, Confession américaine, dans lequel il jette un regard sans concession sur les États-Unis. Et puis comme chaque début de semaine, nous ferons un résumé du week-end sportif. Il sera signé Fabien Gazeau. Quant à la météo, du beau cet après-midi, mais du froid. Le coup près était attendu. Le ministère du Travail a annoncé en fin d'année dernière que les aides à l'embauche d'apprentis seraient revues à la baisse pour l'année 2025. Depuis décembre 2022, le dispositif prévoyait une aide financière unique de 6 000 euros pour toutes les entreprises. Désormais, les PME, entreprises de moins de 250 salariés, pourront recevoir 5 000 euros d'aide dans le cadre de leur recrutement d'apprentis. 2000 euros pour les entreprises plus importantes. Réaction, celle d'Emmanuel Gripon, le président de la Fédération des boulangers pâtissiers de Deux-Sèvres et de Nouvelle-Aquitaine.
C'est dramatique et c'est affolant parce que dans la filière blé, farine, pain, les CFA Poitou-Charentes sont tous pleins, ce qui n'est pas le cas dans d'autres coins de la France. Mais un salarié coûte tellement cher, on a tellement de charges, qu'à un moment donné, ces aides, ils sont sacrés pour nous. Donc on n'est pas là pour abuser des gamins, c'est pas ça. Il faut savoir qu'on donne du temps quand même, on perd du temps, mais on sait où on va quand on prend un jeune. L'apprenti en fidélise, ça devient un ouvrier, puis ça devient un patron. Donc voilà, et ainsi de suite. Et il formera des jeunes pour sa continuité aussi. Voilà, il faut que ça soit comme ça et il ne faut pas que ça s'arrête.
Emmanuel Gripon, président de la Fédération des boulangers pâtissiers de Deux-Sèvres et de Nouvelle-Aquitaine. Précisons que le montant de l'aide initiale de 6 000 euros est maintenu pour l'embauche d'apprentis en situation de handicap. Nous sommes très très loin du dry January, c'est-à-dire janvier sobre ou mois sans alcool. Les mots du chef d'escadron Laurent Fumolo, commandant de la compagnie de gendarmerie de Bressuire, et pour cause. Dans l'après-midi de vendredi dernier, durant une opération de lutte anti-délinquance sur le secteur de Neuilly-les-Aubiers, Mauléon et Cerisé, les gendarmes de la communauté de brigade de Cerisé ont verbalisé un homme pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Il présentait un taux de 0,61 g. Dans la nuit de vendredi à samedi à minuit, le PSIG a contrôlé boulevard de Thouars à Bressuire un homme de 24 ans, dépisté positif. Une procédure pour conduite sous l'emprise de stupéfiants a été initiée. Samedi matin, à 9h30, à Cerisé, un conducteur de 19 ans circulant en voiturette a été contrôlé alors qu'il empruntait une rue en sens interdit. Ce dernier présentait un taux d'alcoolémie retenu à 0,60 g. Dans la nuit de samedi à dimanche, le PSIG, toujours bien présent la nuit, a réalisé la passe de 3 en 2 heures. Peu avant 1h du matin, rue de la Vergne à Bressuire, alcoolémie à 0,7 g et défaut d'assurance relevé sur un conducteur de 40 ans. Une heure plus tard, boulevard du Guédou à Bressuire, alcoolémie à 0,55 g pour un conducteur de 25 ans circulant à vive allure. À 3h du matin, à Breuil-Chaussée, route de Bressuire, alcoolémie de 0,77 g pour un conducteur de 46 ans. Dans la même nuit, à minuit, la brigade de Bressuire a contrôlé un jeune conducteur placé Mille Zola à Bressuire présentant un taux de 0,19 g. Alcoolémie positive également pour cet homme d'une quarantaine d'années qui samedi soir vers 19h30 a perdu le contrôle de son utilitaire à Sainte-Anne dans le sud des Deux-Sèvres. Après avoir remordu le bas-côté de la chaussée, le véhicule a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur a été évacué vers l'hôpital de Niort pour des blessures légères. Ce fut pour lui une première. Après la projection d'un film rétrospective des moments forts qui ont marqué l'année écoulée, Stéphane Raffin, nouveau directeur général des services de la ville de Cerisé, a dressé les grandes lignes de la mission qu'il compte assumer auprès de chacun de ses collègues, collègues qui n'a pas manqué de saluer par leur prénom, gage de la proximité qu'il souhaite insuffler au quotidien. Stéphane Raffin.
C'est une petite commune avec des liens resserrés, avec une sensibilité sur l'environnement. Moi, j'ai une sensibilité depuis très 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 longtemps sur l'environnement. Et à Cerisé, c'est vrai qu'avec les parcs, les étangs, les fleurs et la politique des élus, eh bien, on peut travailler en respectant l'environnement. Et ça, pour moi, c'est important. À la part de Stéphane Raffin, je pense que c'est l'accompagnement vers la transition numérique. Je pense que c'est important de pas créer une fracture numérique. Ça, c'est d'actualité. Et puis, bien évidemment, la plate de la transition écologique.
Est-ce que l'IC, l'intérêt collectif, est plus important que l'IA ?
Bien évidemment, l'intelligence collective est bien plus forte.
Fort de quelques 80 agents mobilisés au quotidien pour répondre aux attentes des habitants autour de l'équipe municipale, le maire de son côté, Johnny Brosseau, n'a pas manqué de saluer leur engagement dans un contexte national et international pour le moins compliqué.
On n'est plus dans une bulle, protégée de tout, que le contexte soit au plus loin international. J'ai cité effectivement l'élection d'un président aux États-Unis d'Amérique qui certainement aura des répercussions sur l'ordre mondial. J'ai cité le contexte plus national, où il y a de l'agitation et du mouvement aux étages supérieurs de l'État, mais qui, ici-bas, eh bien, ne se passe ou ne se produit plus rien, donc interroge et doit nous inviter aussi à nous remobiliser sur nos forces collectives, sur notre commune, pour travailler collectivement à nos projets, à l'animation de la vie locale, aux forces associatives, aux côtés de la collectivité.
D'où l'intérêt du vivre ensemble qui est vraiment présent.
Oui, c'était un petit peu le mot d'ordre ce soir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une option. Vivre ensemble, c'est une nécessité, c'est une conviction pour que Cerizay gagne collectivement et que tous les Cerizéens disposent, profitent de ce que peut offrir donc la commune. Et donc c'est un enjeu à relever, certes passionnant, certes exigeant, mais une nécessité en tout cas pour qu'on puisse tracer des perspectives d'avenir qui profitent à tous.
Johnny Brosseau, le maire de Cerizay, en fin de semaine dernière, lors de la présentation de ses vœux, le maire de Saint-André-sur-Sèvre, Dany Grelier, de Fellabès, Gérard Pierre, présentait également les leurs, l'occasion pour ce dernier d'annoncer qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat pour 2026. Pierre-Yves Marolleau, le maire de Moléon, présidait aussi une cérémonie du même type, lors de laquelle les noms des deux gérants qui reprendront le restaurant situé au niveau de l'îlot Place du Renard en plein centre-ville a été dévoilé. Parmi toutes les candidatures, celle d'un jeune couple originaire de Saint-Pierre-les-Échaubrognes a été retenue. Julien Confort, 30 ans, et Marie Bien-Aimée, 29 ans. Pas encore de nom pour ce futur établissement, dont l'ouverture du mercredi au dimanche est programmée à l'automne prochain. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Toujours plus d'habitants en Nouvelle-Aquitaine. Selon les derniers chiffres, au 1er janvier 2022, nous étions 6 100 000 néo-aquitains. La région concentre par ailleurs 9% de la population française et chaque année, ce sont environ 29 600 habitants supplémentaires qui s'installent en Nouvelle-Aquitaine. La population continue d'augmenter dans les départements du littoral alors qu'elle est globalement stable dans les autres. Les 5 villes les plus peuplées de la grande région sont dans l'ordre Bordeaux, Pau, Bayonne, Limoges et Poitiers. La capitale de Sèvrienne se place, elle, en 8e position. Frédéric Périssa, recteur de l'Académie de Poitiers, se rendra demain mardi à l'école Émile Zola de Niort, située en REP, réseau d'éducation prioritaire. Ce déplacement sera l'occasion de découvrir les actions concrètes mises en œuvre par les professeurs pour favoriser l'acquisition des savoirs fondamentaux et plus spécifiquement pour permettre aux élèves de mieux apprendre à lire, écrire et s'exprimer de la maternelle au CM2. Le recteur y est attendu dès 9h demain matin. L'auteur et essayiste américain Eddie L. Harris dédicacera son dernier essai paru aux éditions Liana Levy à la librairie Brun de Lecture de Toi demain mardi à 19h. Si pour beaucoup de Français, le rêve américain existe encore, Ed Harris, lui, a inversé les rôles et il pense le contraire et observe son pays natal sans concession. Coup d'œil sur son dernier opus, Confession américaine, au micro-colline de notre correspondantoire. C'est Dominique Hérault.
Il s'appelle Confession parce que je trace mon histoire pour réfléchir sur comment, moi, je suis arrivé à un point où les États-Unis ne me semblent plus mon pays. Il parle de la politique et de l'élection de Trump et comment on est arrivé à cette élection, d'élire une personne comme lui.
L'auteur a bien demandé la nationalité française, mais l'administration, qui n'est pas à une contradiction près, le lui a refusé. Lui qui ne manque pourtant pas de déclarer son amour pour notre pays aux 450 fromages.
Et je dis souvent que j'ai pas fui les États-Unis, j'étais plus attiré par la France. Et comme la France n'est pas mon pays de naissance, je vois la France probablement avec les yeux de rêveur. C'est avec plus de clarté quand je vois les États-Unis, parce que je vois tous les mensonges envoyés à travers le monde pour dire que nous sommes le pays le plus beau, le plus fort, le plus riche, le plus tout ça. Et je vois qu'au fond de tout ça, une hypocrisie qui est en train de détruire le pays. Je parle des États-Unis.
Monsieur Trump n'a guère changé depuis son premier mandat.
En fait, il est pire maintenant parce que dans son premier mandat, il a été entouré par des gens qui connaissent la fonction du gouvernement. Et là, il est en train de détruire les choses parce que tous les gens qui nomment pour les positions ministérielles sont des gens incompétents.
Autant de sujets d'échange avec Elia Harris à la librairie Brin de Lecture de Thouars demain mardi à 19h à l'occasion de cette séance de dédicace de son dernier livre Confession américaine paru aux éditions Liana Lévy. Entretien réalisé par notre correspondant toarçais Dominique Hiro. Restons dans le Toarçais avec 10 kilos de truffes qui ont été présentés par une douzaine de trufficulteurs de la région samedi dernier à Availle-Toarçais. Un volume moyen et à des tarifs assez raisonnables pour le genre puisque contenu à 750 euros le kilo pour la première catégorie. Les tubercules de petit calibre se sont écoulés rapidement. Seuls quelques spécimens pesant 300 grammes ont traîné sur les étals, soit 225 euros pour une grosse truffe entière. Alors, les trufficulteurs ont bradé les tarifs, allant même jusqu'à couper les tubercules pour les rendre plus accessibles. C'était l'intérêt, et le seul d'ailleurs, d'arriver en retard à ce 21e rendez-vous du bon goût samedi dernier à Availle-Toarçais, rendez-vous qui sera bien entendu reconduit l'année prochaine. La piscine Pré-le-Roi de Niort, momentanément fermée suite à l'intrusion d'un individu la nuit dernière. La porte d'entrée vitrée et le système d'encaissement ont été détériorés, rendant impossible l'ouverture de l'équipement. Une enquête est en cours et les réparations vont être engagées rapidement, indique la collectivité. La réouverture des bassins sera annoncée sur le site piscine-nioraglo.fr. Une soirée zen ce vendredi à Aquadel Cerisé. Pour débuter l'année en toute sérénité, la piscine cerisienne vous invite à cette soirée en fin de semaine, de 18 à 23 heures, vous pourrez profiter des séances de yoga, de soins relaxants et vous détendrez grâce à un voyage sonore aquatique. On en arrive à l'actualité sportive avec les principaux résultats à retenir du week-end pour nos équipes de Sévrienne. Tout cela est compilé par Fabien Gazo.
En football, Patrice, Choret a battu Vertoux 2-1 en National 3 et réalise une bonne opération dans une poule toujours très serrée avec un festival de matchs nuls ce week-end. À Fabrice Fontaine, le coach de Choret.
Il fallait bien commencer chez nous, il fallait préserver cette invincibilité à domicile. Les joueurs ont mis énormément de cœur à l'ouvrage et on est ressorti de là avec les 3 points.
Fabrice Fontaine déplorait les conditions dans lesquelles ces joueurs s'entraînent en ce moment. D'ailleurs, très peu de matchs se sont disputés ce week-end. Aubin-Orthez face à Saint-Sauveur et la réserve de Choret à Selverine se sont imposés en Coupe Nouvelle-Aquitaine sur terrain synthétique. Dans la poule C de R3, Niort a battu Mata 6-0. Le Pays-Mélois s'est incliné à Saint-André-Cubzac 7-0. Et puis Saint-Florent, la réserve, s'est incliné à Cognac 2-1. En rugby, en National 2, Niort a battu Grolet 40-8. Large victoire bonifiée avec 6 essais à la clé. En Fédéral 3, Partenay a dominé Cadojac 57-17. Choret s'est incliné au Stade Bordelais 45-11. En basket, en Betclic Elite, Cholet s'est imposé à Nancy 78-71. ACB est leader à l'issue des matchs allés. En National 2, la Niort a battu Nantes BH 69-64. En National 2 féminine, Choret accueillait samedi soir Lamboisière Martin. Après une première mi-temps très favorable aux Angevines, irrésistible dans le premier quart, les Choraisiennes sont revenues puis ont dépassé Lamboisière pour s'imposer 82-76. Dans ce match de haut de tableau, la magie du basket a opéré pour la capitaine Fatou Dienne, au micro de Vincent Nori.
La magie du basket, ça dure 40 minutes, on est mené de 20 points, il nous restait 20 minutes à relever la tête, à mettre un peu d'amour propre dans le match, et c'est ce qu'on a fait, on s'est battu sur tous les ballons, on a défendu dur, on a fait des stops et on est revenu. Et ça c'est la marque d'une grande équipe parce que c'est l'amour propre qui a gagné ce match. On ne s'est pas affolé, on a fait confiance en notre groupe. Avant je disais aux filles, on vit ensemble, on meurt ensemble, et là c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
Choret peut aussi désormais recoller à Basketland le week-end prochain en tête du classement pré-national féminin. Bressuire a battu la couronne 90-44. En handball, en D2, Celles-sur-Belle et Bergerac ont fait un nul 26 partout, arraché dans les dernières secondes par les Celloises face à une équipe de bas de tableau. En temps normal, ce serait décevant, mais dans le contexte actuel, c'est plutôt satisfaisant pour Maxime Martin, le coach cellois.
Je savais qu'on allait avoir un match difficile parce que nous, on manquait de repères et puis Bergerac allait venir complètement décomplexé. Malgré tout, tous ces changements et toutes ces péripéties cet hiver, on aurait dû être un peu plus appliqué et un peu plus concentré par moment.
Handball également en National 2. Moncuitant s'est incliné à Blanza du côté de Montluçon, 23-22. En volley, en élite féminine, le VBPN s'est incliné à Ilac, 3-7-1, et occupe désormais la dernière place dans ce championnat. En N2 masculine, la victoire des Pexinois à Plaisir Villepreux, 3-7-0. On termine avec l'athlé et les championnats départementaux de cross ce dimanche à Échiré sur une organisation du Stade Niortais. Chez les femmes, Sophie Stenou de Renignore a remporté le cross long, la course phare dominée chez les hommes par le bassiste Louis Ménard.
Voilà, résumé du week-end sportif signé Fabien Gazot.